Et c'est John Plassard qui est avec nous pour entamer ce rendez-vous de début de semaine sur Bismart, spécialiste en investissement chez Mirabeau, avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est donc le feuilleton politique de l'été, la séquence politique française qui fait réagir évidemment les marchés d'actifs français, mais plus généralement les marchés européens. Que retenir des premières réactions et du rationnel des premières réactions de marché qu'on peut observer depuis ce matin à la suite des résultats du premier tour des élections législatives en France, John?
Bonjour Grégoire. Ben, d'une certaine manière, pour les marchés, c'est un soulagement. Alors, soulagement de courte durée, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a un deuxième tour dans une semaine, et soulagement parce que c'est pas l'extrême droite ni la gauche unie, ou certains l'appellent l'extrême gauche, qui auraient apparemment la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, on a vu ce matin que le spread, ce qu'on regardait, hein, vous vous souvenez, le spread entre l'OAT français et puis le Bund allemand, eh bien, serrait très on voit que le CAC 40 qui a ouvert en hausse de quasiment 3% actuellement est à plus 1,5% et qui est dû quasiment exclusivement à ce qu'on appelle du short squeeze, c'est-à-dire rachat de positions vendeuses. Il faut quand même rappeler une chose qui est très très importante. C'est que depuis le début de l'année, le CAC 40 n'a rien fait. Il est en très, très, très légère hausse, alors que l'Eurostock 50 est à plus de 9%. Donc, il y a un rattrapage théorique qui devrait se faire si tout se passe comme le semblent le dire les marchés financiers aujourd'hui, c'est-à-dire que on ait un gouvernement qui soit ingouvernable, mais potentiellement pas de cohabitation, et donc pendant 3 ans, ce sera comme ça. Mais vous savez, Grégoire, on va se retrouver dans une situation, et c'est Moody's qui avertissait le lendemain, l'agence de notation Moody's qui avertissait le lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, que bien évidemment, elle surveillait de très très près ce qui était en train de se passer, et que s'il n'y avait pas de nouvelles réformes pour que les prévisions budgétaires soient revues à la baisse, eh bien évidemment la note de la France serait abaissée. Donc on se retrouverait théoriquement toujours après le 7 juillet, eh bien dans une situation où vous avez les agences de notation qui vont bien évidemment baisser la note de la France, et vous allez avoir l'écart entre l'OAT et le Bund qui va s'agrandir, et puis on va avoir de la pression bien évidemment sur l'euro qui remontait ce matin face au dollar et notamment au franc suisse.
Il faut imaginer qu'il y a une pression de long terme qui s'installe sur les actifs français, sur les actifs européens comme la devise européenne. Quelle que soit l'issue du second tour des élections législatives et de ce qui se passera dans la séquence suivante.
Oui, clairement. Et vous savez que on avait beaucoup d'analystes, alors vous me direz comme chaque année, qui avaient dit il n'y a pas très longtemps qu'il fallait sortir, c'est-à-dire vendre les actifs américains pour revenir sur les actifs européens, parce que potentiellement, eh bien, en baissant les taux, la Banque Centrale Européenne donnait un message qu'elle voulait, entre autres, relancer la croissance économique, qu'elle était déjà arrivée d'une certaine manière sur son objectif de 2% d'inflation. Eh bien, cette rhétorique de dire on vend les États-Unis pour revenir en Europe, eh bien évidemment, elle va rapidement se dissiper. On sait que c'est une rhétorique qui a toujours lieu en début d'année, et on voit qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas, et on voit depuis quelques semaines que dès que les Américains se réveillent, eh bien on a une pression vendeuse plus importante sur l'Europe, et en l'occurrence sur le CAC 40, on va voir ce qui va se passer cet après-midi, mais ici effectivement, je pense que le rebond qu'on pourrait avoir sera de courte durée. Et l'écart de performance entre ce qu'on disait avant, c'est-à-dire le CAC 40 qui n'a rien fait, qui devrait évidemment rattraper un peu, et l'Eurostock 50, va rester toujours important, parce qu'on sera, comme je disais avant, dans une situation où plus aucune réforme ne sera mise en place, parce que personne ne sera d'accord avec quoi que ce soit.
Si la France crée la surprise politique de l'été, John, les États-Unis ne sont pas en reste. C'est-à-dire que là aussi, on se dirige peut-être vers un scénario assez inédit pour une élection présidentielle américaine, avec un candidat, président sortant, Joe Biden en l'occurrence, qui soulève de plus en plus d'interrogations au sein de son propre camp après un débat avec Donald Trump la semaine dernière qui a été désastreux, catastrophique, pour reprendre les termes qui ont été employés, John. Comment on distingue ce qui est du bruit politique, de l'incertitude, et ce qui pourrait être un peu plus fondamental autour de cette élection présidentielle américaine à ce stade ?
Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on se focalise sur la France, mais on a de nombreux pays, dont les États-Unis, où eh bien, on est dans une situation, je dirais, presque plus chaotique. Hein. Le mot est bien choisi parce que c'est le mot qui est choisi par les démocrates, pas par les républicains, pour décrire le débat, vous l'avez dit, de la semaine passée. Alors, il faut rappeler qu'il y aura un deuxième débat en septembre, mais ce débat va laisser bien évidemment des traces. Et de plus en plus de journaux et d'économistes démocrates eh bien, se posent la question si on peut et si on doit, d'une certaine manière, remplacer Joe Biden. Alors, évidemment, la première chose, c'est qu'il faut qu'il soit d'accord. Ça, je pense, c'est la chose la plus importante. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment de se replonger dans l'histoire et voir si c'est déjà arrivé qu'un président sortant eh bien, se retire. Eh bien, vous savez que c'est arrivé avec Lyndon Johnson en 1968. C'était un choc parce que personne ne s'y attendait, mais il s'était retiré de la course à la présidente. On a eu à la présidence, pardon, en 1972, on a aussi eu Thomas Eggleston, qui était un candidat démocrate à la vice-présidence, qui s'est retiré. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il était traité, et c'est lui-même qui l'avait dit, pour une maladie mentale. Et donc, bien évidemment, vous imaginez les liens trop courts hein, qui sont faits par certains politologues américains. Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que les démocrates décident avant la convention qui va officialiser eh bien, le fait que ce soit Joe Biden qui sera le candidat démocrate et qui se déroulera du 19 au 22 août, bah, la première chose, le premier cas précis, c'est imaginons que demain, Joe Biden dise bah, « je laisse la main et il faut que vous choisissiez quelqu'un d'autre ». Eh bien, tenez-vous bien, il y aura une bataille politique dans chaque État pour savoir qui sera délégué et ensuite qui vont soutenir en fin de compte. Et ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que vous avez même les candidats qui n'ont pas mené campagne qui pourraient être pris en considération. Donc on va dans une gabegie totale avant l'élection. Là, après, on a l'autre point de vue qui est après la convention. Imaginons qu'à la convention, on dise que c'est Biden, mais Biden, après la convention, décide cette fois-ci de dire bah, « je ne veux pas ». Eh bien, normalement, c'est le colistier, c'est-à-dire celui qui ouais. devrait être vice-président s'il sera élu, alors pour l'instant, on ne sait pas qui c'est, qui, lui, devrait venir et venir à la place de Joe Biden. Mais c'est toujours pas aussi simple que ça, parce que, historiquement, toujours, eh bien, c'est le président du parti qui doit décider du poste vacant. Donc on va dans une situation extrêmement compliquée, très courte, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est en novembre qu'il y a les élections présidentielles aux États-Unis, et on arrive dans une situation où, pour battre la personne en face, c'est-à-dire Trump, qui est déjà largement en avance dans les sondages, eh bien ça va être compliqué. Et juste un tout dernier mot, Grégoire, on parle de plus en plus dans le camp démocrate de Gavin Newsom, qui est la star montante et qui est gouverneur de Californie, qui pourrait potentiellement être le prochain vice-président parce qu'il est plus aimé que Kamala Harris. Mais dans les derniers sondages qui étaient sortis il n'y a pas très longtemps, eh bien, on voyait que dans une hypothèse de Donald Trump contre Gavin Newsom, eh bien, Donald Trump était aussi largement en avance, même plus en avance que contre Joe Biden.
Ça veut dire que l'enjeu quand même de la composition, de la recomposition du Congrès va devenir l'enjeu clé de ces élections. Il y a la présidentielle et il y a le renouvellement d'une partie du Congrès qui va avec, John.
Oui, tout à fait. Et puis la question principale, c'est de dire où, et on n'a pas de réponse, personne n'a de réponse aujourd'hui, c'est où, eh bien, c'est done deal pour Donald Trump, c'est-à-dire que les Américains estiment que ça va être le prochain président, mais ils vont se focaliser pour élire plutôt des démocrates, comme vous l'avez dit, aux chambres, où, eh bien, on donne le plein pouvoir aux républicains, et c'est Donald Trump qui est président, et ils ont les pleins pouvoirs pour faire passer des nouvelles réformes. Et là, on rentre dans une circonstance qui est totalement différente parce qu'il y aura une recomposition du Parti démocrate qui, historiquement, prend beaucoup de temps. Donc, c'est la mainmise pour les républicains. Et là, c'est un différent scénario, totalement différent scénario qui n'avait été envisagé par personne.
Oui, bon, ben une séquence politique qui s'annonce encore mouvementée devant nous. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, les élections générales au Royaume-Uni, cette semaine, le 4 juillet, paraissent presque être un fleuve tranquille, si j'ose dire. John, 8 ans après le Brexit, on a l'impression d'une histoire qui revient à quelque chose d'un peu plus normal entre le Labour de Keir Starmer aujourd'hui, donné largement gagnant, et les conservateurs défendus à ce stade par Rishi Sunak.
Ouais, et c'est très intéressant ce que vous dites, Grégoire. Pourquoi ? Parce que on voit de plus en plus d'investisseurs qui disent qu'en fait, il faudrait investir en Grande-Bretagne. Alors, historiquement, si vous dites qu'il faut investir en Grande-Bretagne quand le parti travailliste, les Labour, ont la majorité, eh bien, ça pourrait faire sourire plus d'une personne. Eh bien, là, ce serait potentiellement, eh bien, le coup du siècle, avec potentiellement, et ça irait aussi à l'encontre de l'histoire, eh bien, l'élection du Labour Party avec une Liv Sterling qui revient à la hausse. Et je vous rappelle quand même que l'inflation officielle en Grande-Bretagne est arrivée à l'objectif de la Banque centrale de Grande-Bretagne. Et donc la Grande-Bretagne pourrait sans aucun problème baisser ses taux lors de la prochaine réunion. Et ce serait l'élève idéal, entre guillemets, qui serait la Grande-Bretagne après le Brexit. Et donc c'est un clin d'œil à tous ceux qui disaient que la Grande-Bretagne allait s'effondrer théoriquement.
Enfin bon, 8 ans se sont écoulés depuis le Brexit et ça n'a pas été une situation facile pendant la période pour le Royaume-Uni. Merci beaucoup John, merci pour ces commentaires sur le prisme politique, la dimension politique qui est bel et bien présente et sans doute pour quelques temps encore dans les marchés financiers. John Plassard qui est avec nous, spécialiste en investissement chez Mirabeau.